Bonjour et bienvenue dans Certains Lèmes à Chaud, l'émission qui reste au chaud, qui regarde les films avec un bon petit chocolat chaud sous un plaid. Salut Thierry.
Ouais, merci Thomas de m'avoir dit non, mais c'est bon, viens, on a tous été testés négatifs, viens, ramène-toi devant les Halles, ils vont ouvrir la salle pour nous, hein, pour finalement me sortir qu'on est en fait au chaud devant un plaid. Génial.
Alors, on a une autorisation spéciale, en effet, le ministère de l'Intérieur a accepté de nous faire une case exprès sur l'autorisation, rien que pour nous, pour pouvoir enregistrer tout seul devant les Halles. Ce qui ne sert à rien puisque le cinéma est fermé. Donc, on va commenter les affiches ce soir, vous l'avez compris. Non ?
Faut bien.
Alors, il y a une autre émission que je ne citerai pas qui fait ça, Marwan m'aura compris, et vraiment, on n'a pas envie.
Vraiment, on n'a pas envie. Ce soir, dans Certains Lèmes à Chaud, nous ne parlerons pas de Pinocchio, Sans un bruit d'eux, Lucy in the Sky, L'ombre de Staline, Forte, Jumbo, Benny, Les filles de joie, Petit pays, et plein d'autres trucs qui ne sortiront pas car les cinémas sont fermés pour cause de pandémie. Mais plutôt, nous irons parler de films en VOD, DVD. On reste au chaud chez soi, mais nous ne sommes pas tout seuls pour cette émission, Thierry.
On a ramené évidemment des copains de la team. D'ailleurs, moi j'en ai un qui est juste
à côté de toi,
salut,
Thierry.
Salut Alex. Salut Thierry.
On a Alex qui nous a rejoint et on a aussi deux membres du label Podcut qui nous ont rejoint. Zou, salut Zou.
Salut, comment ça va?
Ça va bien ma foi. Je me sens un peu dans une autre dimension avec toi, hein. Hors l'espace et le temps.
Et oui, c'est d'habitude ma spécialité de parler de voyages dans des cabines téléphoniques bleues avec mes compères du podcast Dr. What.
En effet, le podcast des fans de Doctor Who. Et tu n'es pas tout seul, car avec toi, il y a Julien. Salut Julien.
Salut.
Julien, tu es dans une émission de cinéma, c'est pas la seule cinéma. Et non, c'est pas ta seule émission de cinéma.
Je te trouble.
Tu me troubles, c'est ça, mais c'est ton charme à travers le micro, à travers
mon
les ondes.
À travers les internets.
Je le perçois, c'est ça, à travers les internets. Parce que j'ai l'impression d'être le dimanche matin, en fait, quand je te parle comme ça.
Et oui, car tu as participé à G7, qui est un podcast que j'anime sur le cinéma aussi. Mais alors nous, on est sur une niche, on est sur les films liés aux jeux vidéo. Donc, spoiler alert, c'est pas souvent bon. Je me souviens plus lequel tu avais fait avec nous.
Alone in the Dark, c'était génial, t'exagères.
On l'a pas encore fait, s'il te plaît.
Il était pas dans le classement, Alone in the Dark?
Non.
Non.
Ah.
Non, on a d'accord. Qui ressemble un peu, mais non.
On avait fait FF7 Advent Children.
Bon, ça va.
Ça va. Je m'en suis plutôt bien tiré.
Ça va plutôt bien.
Ouais. Et puis voilà, je suis content de faire participer à ce... C'est un pilote ou c'est l'épisode 1? Est-ce que vous avez décidé?
Alors là, si tu veux, c'est la nouvelle version, c'est l'épisode Osho numéro 1. Voilà, c'est Certains Lèmes Osho numéro 1.
Bah, ça me fait plaisir de participer à Osho numéro 1.
Voilà. On verra si on change le nom ou pas. Je crois pas, mais...
Certains sont confinés.
On va parler de sorties VOD, enfin de plateformes même de films en ligne.
Bah bravo, on m'a oublié, hein. C'est bon, je peux partir.
Ah merde,
si
j'ai oublié Marwan.
Bah ouais, il est tout petit dans le coin,
je l'ai
oublié,
il est tout discret. Oh là là, mais... Oh là là.
Attends, je reviens, je vais claquer la porte.
J'ai pas de bruit de claquement de porte, désolé. Marwan, salut Marwan.
Bah bonjour, enfin bonsoir. Enfin, au revoir, je me casse, c'est bon, c'est fini. J'en ai marre de claque.
T'étais tout discret, je te voyais plus, voilà.
Est-ce que tu peux éventuellement saluer le rire de Yassa qu'on pourra caler à divers moments, genre les moments où Marwan va, tout ça?
Je sais pas... Alors,
je sais
attends.
Pas si c'est très clair ce que je dis, mais voilà, enfin, dans ma tête c'est clair.
Voilà.
Et je vais lui faire coucou, voilà.
Mais c'est beau.
J'ai pas tout samplé, j'ai testé des samples, en fait voilà, j'ai pas vu tous les films, mais le dernier film que je n'ai pas vu, je l'ai passé à faire des tests pour pouvoir mettre des samples dans l'émission, voilà.
Ah,
on va voir ce que ça donne. C'est du bidouillage, hein. On essuie les plâtres, ça sera mieux dans les prochaines émissions. Donc je disais, on reprend le concept, voilà, si on pouvait reprendre le concept tout simplement. Mais justement, quand on va pas au cinéma, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on regarde des films sur l'ordinateur, de manière légale, bien entendu.
Oui.
Oui, n'est-ce pas Thierry?
Tu demandes aux cousins américains.
Oui.
Voilà. Et bon, on n'a pas les sous pour s'acheter les films à la location un par un, donc on va sur les plateformes légales, hein, comme Netflix, Amazon, tout ça, et bientôt Disney+, qui n'est pas encore disponible en France. Ils ont raté un créneau de peu.
J'allais dire qu'on aurait pu faire un certain M, La Belle et le Clochard en live action. Ça a été merveilleux, ça.
Oh, dans 15 jours, c'est jouable, hein?
Non.
Ah, je paierai pas pour eux.
Il peut s'en passer des choses en 15 jours.
Puis surtout, heureusement qu'on n'a pas payé pour ce qu'on a vu, quoi.
Oui.
En plus, ouais. C'est vrai qu'il n'y a rien d'intéressant dans ce qui est proposé, pour le coup. C'est vraiment que des trucs doudous.
Ah, ne spoilez pas tout de suite.
On peut dire que ça n'a d'original que le nom sur Netflix, quoi.
Pas mal. On va voir chaque semaine une nouvelle plateforme. On part sur ce principe-là, on verra comment ça évolue au fur et à mesure. Cette semaine, on commence par le leader du marché, hein, Netflix. Et on va regarder les dernières sorties cinoches de Netflix.
Moi, je trouve que c'était Salto, le leader.
Ah oui, Salto, ça va être... Non, mais ils vont faire un grand
ça, c'est
coup,
une
Salto,
blague de niche.
Ah, ça, il faut
parce
savoir.
C'est censé être le service de VOD français, avec tous les replays des chaînes françaises.
Non, mais c'est TF1 Vidéo qui va vous exploser tous, arrêtez.
Oui. En partenariat avec Vidéo Future.
Ah, putain, les souvenirs.
Voilà, donc nous ne sommes pas Netflixers, voilà. Enfin, on salue un podcast confrère, voilà. On leur fait coucou. On ne parlera de Netflix qu'aujourd'hui, en principe. On est le mercredi 18 mars... Et donc, les dernières sorties, Netflix Originals, hein, ou production Netflix, on a Spencer Confidential, Lost Girls, Go-Karts et Sa Dernière Volonté. Voilà, alors Sa Dernière Volonté qui est un peu plus ancien, mais on a vu le casting, on s'est dit ça peut être sympa, donc bon allez, on va le chercher, il est du mois dernier, mais on le prend quand même. Est-ce que vous êtes prêts, appâtés par ce programme ?
Absolument pas.
Il y en avait 2/3 qui me bottaient bien.
Il y en avait un qui me bottait bien.
Enfin, 2/4, pardon, parce qu'il y en a un que j'ai même pas regardé.
Bah, il y en avait un seul, moi, qui me bottait bien, et c'est celui que j'ai vu tout seul.
Bah, c'est bien, tu pourras nous le vendre, pour qu'on le regarde après. Telle est ta mission.
Non, non.
Avant qu'on commence un peu sur Netflix, juste, je vais prendre vos premiers avis sur la plateforme Netflix. Vous, quel est votre rapport à Netflix ? Est-ce que vous aimez bien ou pas ? Est-ce que vous êtes abonné ? Ou est-ce que vous avez piqué l'abonnement à quelqu'un pour l'émission ?
Alors, vas-y, je commence. Alors, moi, j'ai l'abonnement famille que je partage avec ma belle famille. Et en échange, ils me prêtent leur code MyCanal. Donc, pour le coup, je suis gagnant. Et c'est quelque chose que j'utilise depuis un petit moment. J'avais découvert ça lors d'un voyage aux États-Unis. Et à l'époque, on nous disait « Ouais, c'est fabuleux et tout, vous verrez ». Effectivement, ça nous a bien aidé des dimanches soirs où on ne savait pas quoi faire. Et c'est quelque chose que j'utilise pas mal, je dirais 2-3 fois par semaine quand même. Et j'utilise tellement que j'en fais même un podcast aussi dessus. Donc, ouais, j'ai un bon rapport avec Netflix.
Tu aimes plutôt bien. Zu, est-ce que tu aimes Netflix ?
Eh bien, je aime plutôt bien aussi. Malgré l'interface qui me hérisse le poil, parce que sur télé, je la trouve plus que pas instinctive, et sur PS4, j'en parle même pas.
Sur ordi non plus. Hein.
Non, arrêtez, c'est pas trop trop compliqué quand même.
C'est pas que c'est Minitel, compliqué, c'est que ça pourrait être vachement mieux.
Non, ça c'est vrai pour le coup.
Okay.
Au niveau des suivis de où est-ce que t'en es dans les séries et tout ce genre de choses... Je trouve que ils pourraient être, surtout avec leur position sur le marché, bien bien plus précis et nous fournir plus d'informations. Mais sinon,
sur les informations sur les films, tu veux dire sur les programmes
ou juste sur là où est-ce qu'on en est dans une série, plutôt que on se retrouve à dire alors cette série j'en étais où, ah oui tel épisode,
mais il le fait
je suis au
seul,
milieu,
ça,
je suis à la fin, enfin. C'est
ah non, je vois ce que tu veux dire. En fait,
ton genre, taux d'avancement.
Ton taux d'avancement au total. Genre, c'est sur ça. La série, elle fait 10 saisons. T'es à l'épisode 4 de la saison 3. Bah, tu veux savoir qu'il te reste genre 6 saisons et puis la moitié d'une.
Exactement.
J'ai compris. Okay.
Ah, tu veux dire ça, d'accord. Parce que sinon, Netflix se met automatiquement au dernier
oui,
épisode.
Oui, c'est automatiquement
en fait.
Là où tu l'as laissé, ouais.
Oui, ça c'est facile, sauf quand tu squattes plusieurs comptes. Mais ce n'est pas mon cas.
Oui, ça, c'est encore autre chose.
Donc voilà, et sinon j'ai à peu près le même rapport que Julien, étant donné que je participe au même podcast que lui.
Ok, Marwan ?
Pour ma part, c'est à peu près la même chose. J'ai un assez bon rapport avec Netflix par rapport au fait qu'en soirée, quand on n'a rien à faire, ou même avant d'aller se coucher, je sais pas vous, mais on a tous un peu des séries qu'on regarde un million de fois, et ça c'est plutôt sympathique et sinon, en termes de films, c'est assez divers, mais ça manque encore énormément de choix. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a cette impression qu'il faut compléter avec d'autres services de SVOD, comme Prime et tout.
Ils musclent leur jeu, là, quand même, parce que là, ils font des annonces, ils montrent, ils grossissent leur catalogue assez fortement ces derniers temps. Et là, ils ont fait une grosse prise, ils ont rajouté les Ghibli aussi, il n'y a pas longtemps. Moi, je trouve qu'ils se musclent
ça,
quand même.
Ah, mais non, mais ça, c'est des coups de communication, parce qu'ils grossissent, mais après, c'est pour retirer d'autres choses, tu vois. Et ça reste jamais vraiment longtemps. Tu sens vraiment que l'enveloppe française est vraiment minuscule par rapport à l'enveloppe américaine, et que dès lors qu'on va balancer Ghibli, bah on va retirer des trucs qu'on a déjà vu un milliard de fois mais qui marchent, comme je sais pas Harry Potter, comme des films d'un réalisateur, et c'est ça en fait. Et ce qui est dommage, et c'est par rapport à aussi à l'interface, c'est que bah pour le coup je voulais faire aussi une liste de films qui, comment dire, je voulais un peu fouiller dans le site pour voir ce qu'il y avait comme film. Et le problème, c'est que c'est difficile de voir le fond du truc, parce qu'on te propose, il y a un algorithme totalement pété qui fait qu'on revient toujours sur la même chose, alors qu'en réalité il y a plein d'autres films.
Est-ce que tu connais le site Just Watch ou Just Watch, je sais pas comment on dit.
Oui je connais pour le coup, et heureusement ça aide un peu, mais c'est dommage qu'on ne puisse pas, t'es même flexible je crois, mais c'est dommage de pas avoir aussi même sur le site, tu vois, c'est déjà...
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Netflix, l'offre film, pour moi, c'est le truc le moins intéressant de la plateforme.
Totalement.
Par rapport aux séries ou aux documentaires. Ils sortent vachement de documentaires inédits et intéressants. Autant, alors des films originaux, il y en a eu quelques-uns. Je pense à Okja, à Roma.
Il y a Marriage Story récemment aussi.
Ouais, Marriage Story récent, ouais. Mais je veux dire, ça fait quoi? Ça fait 4-5 ans qu'on l'a en France. Il n'y a pas eu beaucoup, beaucoup de films qui ont été des feature killers, quoi, qui ont forcé les gens à s'abonner juste pour ce film.
Il y avait le Scorsese quand même, il n'y a pas longtemps aussi.
Ah, le Scorsese, c'est vrai, The Irishman.
On en a beaucoup parlé de celui-là.
Ouais.
Même nous, on en a parlé dans l'émission, c'est te dire à quel point ça a secoué.
Du coup, vous êtes allé chez l'un ou chez l'autre.
C'est ça.
Vous êtes sorti dans l'escalier, vous avez fait l'épisode.
Exactement. Sur le palier. Thierry, Alex, je me tourne vers vous.
Ouais, bah, moi, Netflix, c'est un outil que j'utilise, mais à la fois beaucoup et à la fois très peu. Je l'utilise pas mal au boulot, parce que ça me permet justement d'avoir un support sur mon portable qui me permet de mater des trucs, donc je les mate pas dans de bonnes conditions. Mais parce que, en grande majorité, je m'en fous, en fait, de leur contenu. Je trouve que leurs séries, même, sont très mauvaises. Voilà, on me dit que c'est leur force, franchement. Enfin, je peux en citer quelques-unes que j'apprécie. Il y a Better Call Saul, qui est une espèce de truc assez monstrueux. Mais la plupart du temps, en fait, ils ont, et de plus en plus maintenant, en fait, leur première série originale était intéressante dans le sens où ils ont tenté des choses. Maintenant qu'ils ont trouvé un filon, ils demandent à tous leurs scénaristes et à tous leurs réals de faire exactement le même filon. Donc même maintenant, quand j'essaye moi de me diriger vers des séries plutôt étrangères, j'avais parlé dans l'émission de The Naked Director, que j'ai quand même beaucoup apprécié, ça suit le même filon, c'est pas très original et ça cherche pas à l'être en fait. C'est maintenant qu'on a acquis un savoir-faire qui fait que les séries sont regardables et plutôt plaisantes, et bien on cherche plus l'originalité. Ça me déplaît énormément. Et alors en termes de films, maintenant ils ont quand même l'avantage de bosser avec des réals monstrueux. Ce qui fait que, en fait, ils donnent l'opportunité à des réals de bosser. Donc là, on a parlé de Cuaron pour Roma, on a parlé de Bong Joon-ho pour Okja, de Scorsese pour Irishman. Moi, je vais parler des Safdie pour Uncut Gems. Il va y avoir Fincher qui va bosser aussi pour la plateforme et qui va surtout avoir le droit de faire absolument ce qu'il veut. Ces gens-là, je les attends. Mais je les attends plus parce que j'ai envie de voir le nouveau film de David Fincher, pas parce que je vais voir un Netflix original. Je m'en fous. Netflix, c'est cool qu'ils leur mettent une possibilité de faire ça. Mais par contre, tout ce qu'ils commandent à leurs créateurs, et les films dont on va parler sont pas toutes, mais certaines des commandes aussi à des créateurs ou des gens qui n'ont jamais fait de film qui se retrouvent là-dessus et qui vont faire des trucs pour qu'il y ait du contenu constant. Je pense aux dernières bouses avec Adam Sandler, enfin pas Uncut Gems, Thomas, pas Uncut Gems, le truc avec Jennifer Aniston. Voilà, mais je sais plus ce que c'était, qui était dans un avion, c'était pas bien, bref, voilà.
Il y avait Danny Boone.
Oui, il y a Danny Boone. Celui-là même, voilà. Mais quand tu penses à ça, tu te dis, voilà, les mecs ils font juste du contenu pour dire il y a constamment des choses. Après, la manière de consommer des gens actuellement, c'est ils veulent juste bouffer des trucs sans s'inquiéter de la qualité. Donc du coup, ça convient à tout le monde. Mais ouais, du coup, moi qui ai une grosse collection, tous les films de patrimoine qu'il y a dessus, je les ai quasiment tous vus parce qu'ils en ont pas beaucoup. C'est vrai que, enfin, Marwan, tu disais que tu as du mal à chercher. Alors en effet, mais c'est en plus que avant les années 70, et encore je suis gentil, je vais même dire avant 85, ils ont quasiment rien.
C'est ça, oui.
Il y avait une période, ils ont mis Casablanca, j'étais là, putain, un film des années 40, j'étais ravi de voir Casablanca, ils l'ont enlevé au bout d'une semaine, plus aucun film de cette période-là. Et quand tu vas à l'étranger, c'est dommage parce qu'ils ont vu qu'ils sont tous zonés par pays, bah, à l'étranger, il y a des films de patrimoine beaucoup plus prononcés, mais pas chez nous. Donc du coup, en fait, je mate des séries qui sont pas de Netflix, donc là, je mate Mad Men, je mate Rick et Morty, je mate les Ghibli, je mate des films de temps en temps originaux, mais c'est très rare. En fait, je me sers de Netflix pour mater ce que j'ai pas dans ma collection, et du coup, c'est assez faible. Voilà. Alex.
Netflix, c'est vrai qu'à la base, j'avais commencé pour bouffer de la série, et parce que c'est vrai que c'était, au départ, c'était assez cool. Et surtout, j'appréciais énormément parce qu'on permettait à des acteurs ou à des réalisateurs de faire des choses qu'ils n'auraient pas pu faire auparavant, ou vraiment à les laisser, à leur donner libre cours. Donc ça, c'était vraiment sympa. Mais une fois en fait qu'on a fait le tour des programmes qu'on aime bien, c'est vrai qu'il y a une forme de répétition, et c'est un peu le syndrome Karate Kid. C'est que Karate Kid, c'était cool quand t'étais jeune, et puis après t'as eu la version Jaden et c'est un petit peu plus gênant, mais bon, t'acceptes. Et puis après il y a Go-Kart, et là
je t'ai vu venir mais de loin avec cette métaphore.
Voilà, je pense qu'on est tous d'accord. Et c'est vrai qu'avant Netflix, j'appréciais beaucoup parce que ça m'apportait énormément, on va dire. Et maintenant, je trouve que c'est bien pour commencer une discussion Tinder. Voilà.
Et toi, Thomas ?
Pour moi, c'est un synonyme de déception, Netflix. Je sais que dès qu'il y a marqué Netflix original dans un coin, j'ai 99% d'être déçu du résultat. C'est Witcher m'a donné encore raison. Bon, j'attendais rien aussi. J'attendais absolument rien de truc. Je l'ai subi pour une émission que j'ai pas pu enregistrer. Voilà.
Tu l'as vraiment subi, quoi.
J'ai subi.
Franchement, il y a bien pire que The Witcher. Hein.
Non, c'est vrai. Il y a Uncle Jem aussi, mais.
Il a perdu
oh là
dans
là,
l'espace.
Par contre, je te permets pas.
Ouais. Non, mais c'est triste. C'est que j'ai l'impression de voir des téléfilms en fait sur Netflix. J'ai pas vraiment l'impression de voir du Cinoche. Et les séries, pareil, j'ai l'impression de voir. Des trucs qui sont sympas, hein, des trucs qui se tiennent, hein, mais il manque quelque chose, quoi. C'est pas HBO, c'est vraiment, on est la catégorie en dessous, j'ai l'impression. Alors, je le garde parce qu'on est plusieurs sur le compte et que, bon, je l'ai pris, mais la famille en profite, hein, et regarde chacun son truc. Il y a de l'anime, ils ont gonflé un peu l'anime sur Netflix, donc je suis content, tu vois. Il y a Evangelion, voilà, il y a les
Ah oui, il y a le film Death Note, j'avais oublié celui-là aussi.
Voilà. Alors, par contre, voilà, oui, par contre, tu vois, là... Quand ils font des adaptations, ça fait le live de Death Note, tu vois, ouais, ce genre de truc.
Ils ont annoncé qu'ils feraient le live de One Piece. Hein.
Ah. Ouais, et ils veulent faire le live de Cowboy Bebop aussi. Je me suis empêché de sauter par la fenêtre, j'étais à deux doigts, tu vois.
Et celui de Avatar The Last Airbender.
Ton commentaire, Thomas, il me fait penser à la dernière saison de South Park. Où ils se foutent de la gueule de Netflix, parce qu'en gros ils disent que Netflix
achète
n'importe quel scénario, et du coup, et surtout s'il y a des super-héros, et du coup il y a 2-3 épisodes où le fil rouge c'est de monter des univers de super-héros pour que Netflix achète ta série, que tu deviennes riche.
Mais il y a des trucs intéressants, par exemple moi j'ai bien aimé la première saison de Daredevil par exemple, mais parce que j'aimais bien les bastons. Et après, ça a continué, puis il y a eu d'autres séries Marvel,
Jessica Jones,
et puis ils ont mélangé.
La première saison.
Ouais, c'est un peu poussif quand même. Il y a des épisodes en trop. Enfin,
la première saison,
mais...
ça va.
Voilà. Attends, il y a un docteur.
Puis...
Ah oui.
Voilà, c'est surtout parce qu'il y a un docteur en fait, qui sauve un peu la saison. Après, bon, il y a les Defenders et tout ça.
Ah, oh, ça c'était
la
dur.
Catastrophe Defenders. Quoi.
Mais sur Netflix, le truc que personne n'a cité, c'est les documentaires et le stand-up.
C'est vrai qu'il y a du
stand-up. Et moi, c'est mon gros. C'est ma grosse consommation au final sur la plateforme. Les docus et le stand-up.
Le stand-up, je te rejoins pas trop. En fait, je trouve qu'ils remettent beaucoup de trucs de vieux stand-up, genre les vieux Eddie Murphy, les vieux Seinfeld, ce genre de trucs. Ça, je trouve ça très bien. Mais alors, le fait que maintenant, ils payent aussi des humoristes super chers pour leur pondre 36 spectacles, et qui sont des redites énormes, je trouve ça assez fade, en fait. Enfin, moi, ça me plaît pas trop.
Copie comique, aime ton message.
Ça dépend, il y a des trucs sympas. Par exemple... Il y a un tour de documentaire de Yacine Bellous, c'est veux-tu faire l'humour avec moi, un truc comme ça, je sais plus. Et c'est sur, ils vont dans plusieurs pays pour voir comment est traité l'humour, le stand-up et tout. Voilà, il y a quand même une recherche, pour que c'est du docu avec du stand-up, donc alors là c'est le combo gagnant.
Mais
ouais, non, c'est intéressant.
Moi, je sais pas, le stand-up à enregistrer, alors je trouve ça intéressant, hein, c'est cool pour les amateurs, mais je trouve que le stand-up, c'est un truc qui se vit, quoi. C'est quelque chose, il faut être dans la salle. Pour vous donner un exemple, je vais prendre deux humoristes qui me laissent complètement indifférent à travers l'écran. Je vais prendre Titoff et Franck Dubosc, voilà. vous voyez le niveau. Je crois pas qu'ils soient sur Netflix, mais bon, vous voyez le niveau. Ces mecs-là, bon, ben, sur l'écran, c'est compliqué, quoi, tu vois, à la radio. Je les ai vus en live. Me demandez pas dans quelles circonstances, c'est assez compliqué, j'ai un passé trouble. Bon, très bien. Eh ben, c'est à mourir de rire.
t'es dans l'ambiance, t'es pris dans la salle, les mecs font vivre la salle, et en réalité, bah, je suis ressorti, j'avais mal aux côtes, j'avais mal aux zygomatiques, parce que le stand-up, le spectacle vivant, bah, c'est vivant, il faut le vivre sur place, quoi. C'est comme du théâtre filmé, en fait, c'est pas un truc qui m'intéresse spécialement.
Bah d'accord.
On a fait un petit tour de la plateforme un peu, ouais, on sait à peu près où on en est sur la plateforme, quel est notre rapport avec Netflix. Et maintenant, voyons un peu les dernières sorties cinéma. On commence tout de suite avec le premier film.
You made it. Try and stay on this side for a while. Let's go see your girlfriend.
5 years ago, you got yourself sent to prison.
What was I supposed to do, wait?
I'm sorry.
I love you! How do you like that?
Let's go!
Yo! Henry!
What? You said I'd have my own room.
Hawk, this is Spencer. Spencer, this is Hawk. You two are gonna be roommates.
Je vais faire un aparté là parce qu'il faut absolument qu'on en parle. Un truc qu'on a oublié de préciser aussi, c'est que autant les gars, du coup, même si leurs métrages sont pas bons, ils font des métrages qui se tiennent, ils savent pas monter des bandes annonces. Je sais pas s'ils font appel à une compagnie extérieure ou quoi que ce soit. Les bandes annonces Netflix, quand j'ai dit à Alex qu'il voulait pas mater tous les films, vas-y, on mate les bandes annonces. Les quatre étaient affreuses, irregardables.
Et surtout, on voyait tous les films, quoi, putain.
Oui.
Et elles faisaient toutes 1 minute 58 exactement.
Est-ce que le programme serait limité à 2 minutes?
Ouais, non, mais même c'était beaucoup trop. Mais franchement, il faut qu'ils fassent des bandes annonces ultra énergiques de 35 secondes, des promo teasers, quoi. Mais ça, oui, qui te dévoile quasiment toute l'intrigue en un coup, tu fais mais ah!
Mais en même temps, on n'a que la vignette surtout, hein, vu comme ils décrivent leur
oui,
programme.
Ils ne savent pas non plus écrire leur description, c'est pas faux ça.
Pour savoir qu'un film est fait par tel réalisateur ou tel acteur, il faut aller fouiller en détail dans le truc. Et s'il a été primé quelque part, ouais, parce qu'ils ont une série film primé, mais ils ont été primés au Tadjikistan il y a 10 ans, et tu sais pas quoi, tu vois. En fait,
ça compte.
Ah oui, hein. Non, mais.
Donc, bon. Un film qui en tout cas n'est pas primé, enfin, j'espère pas.
Pas encore.
Pas encore. Mais peut-être qu'au Netflix Awards, peut-être, qui sait. Ou au meilleur film produit par les producteurs de Fast and Furious.
Non, t'exagères.
Franchement, on l'avait détesté tant que ça.
C'est Peter Berg. Hein. C'est Peter Berg, il a une sacrée renommée, le bonhomme. Ah, une mauvaise renommée, mais il a une renommée.
Peter Berg, alors on va en parler, donc Spencer Confidential de Peter Berg. Peter Berg, qui est le réal de Very Bad Things. Moi, quand on est ado, ça se regarde. Hancock.
Le Battleship.
Bienvenue dans la jungle.
Et le merveilleux Battleship, ouais. L'adaptation de la bataille navale. Voilà.
Ah.
Avec Taylor Kitsch et Rihanna.
Il faut quand même l'oser, celle-là.
Et un porte-avions qui drift.
Oui, aussi, oui. Et c'est sa cinquième collaboration avec Mark Wahlberg. Voilà.
Marky Mark.
Lone Survivor, Deepwater, Track à Boston, 22 Miles, que des chefs-d'œuvre qui sont restés gravés à tout jamais dans nos mémoires. Celui-ci sera-t-il gravé également dans nos mémoires, chers amis?
Franchement, oui. Moi, j'avais l'impression de voir la version 2020 de Terence Hill et de Bud Spencer avec du John Wick saupoudré par-dessus.
Waouh, putain, John Wick, c'est gentil. Hein. Non, John Wick, l'intérêt de John Wick, c'est que les séquences de baston sont en plan séquence, elles ne sont pas coupées, elles sont filmées de loin pour qu'on voit bien l'action. Scénario et dialogue, ouais, possible.
Alors, pas côté plan séquence, mais plutôt côté... Enfin, moi, de ce que je retiens de John Wick aussi, c'est le côté réaliste, tu vois. Quand ils se prennent des droites, il y a des marques, etc. À chaque fois que Marky Mark se bat, là, et ben bah, donc déjà, il se fait tout le temps péter la gueule, mais il garde les séquelles de ses bastons, quand même. Il y a ce côté-là qui est réaliste, j'ai trouvé.
Le côté de John Wick, moi, c'est à un moment, j'ai cru qu'ils allaient buter le chien.
Ah oui. Ils ont buté un chat. Hein.
Bah, ce qui est bien, c'est que Netflix n'est pas forcément... n'a pas besoin de Netflix pour faire de mauvais films. Il en faisait avant des mauvais films, il en fait maintenant.
C'est pas le tag Netflix qui a changé la donne, quoi.
Voilà, c'est ça. C'est qu'il y en a qui disent, ouais, tiens, Netflix, ça fait que tel réel, il est moins bon et tout. Alors non, là, c'est pas rien. C'est vraiment, il n'y a pas de différence. Hein. C'est vraiment la même chose. À part un semblant d'histoire, mais encore une fois, un semblant d'histoire, c'est la même chose que ce qu'il a pu faire. Enfin, pas par rapport à Battleship, mais à chaque fois, les mêmes types de... stéréotypes de personnages, toujours le même délire, donc j'en ai marre.
Parlant d'histoire, qui veut se lancer à résumer le film? Bon, la bande-annonce le fait très bien, hein, mais...
Et franchement, c'est celui qui a le plus d'intrigue des trois films que j'ai vus pour l'émission. Hein. Les deux autres, franchement, c'était straight forward hein, quand même. Là, il y a un petit peu de suspense.
Ah, content de
pas. Bah, vas-y, résume.
Ouais, je sens que je vais être l'avocat de Spencer Confidential. Donc, Spencer, qui est joué par Mark Wahlberg, est un ancien flic qui a pété la gueule à son chef et qui, du coup, a fait 50 tôles. Et du coup, il a pété la gueule à des détenus. Et quand il sort, il va péter la gueule à des latinos qui veulent le tuer. Et il va se mettre à enquêter sur le meurtre du mec à qui il a pété la gueule. Donc, je vais souvent dire péter la gueule parce que, comme vous l'aurez compris, il y a beaucoup de bagarres.
Et c'est un peu le principe du film. Hein, c'est enquête, péter des gueules, enquête, péter des gueules. Hein.
Exactement. Il va faire équipe avec son coloc.
Hawk.
Ouais, Hawk, qui veut faire de l'UFC. Et qui du coup va apprendre un petit peu à boxer avec Marc. Et les deux compères, avec leur régisseur, vont remonter la piste de qui a tué le chef de la police qui avait l'air d'être un pourri, et qui a tué le mec qu'on soupçonne qu'il a tué le chef de la police, mais en fait il est gentil, et on a prévenu que c'était un suicide, donc en fait c'est trop bizarre. Vous avez rien compris ?
C'est la touche G7, ça.
Non, c'est juste qu'on a vu ce film mille fois. Le
ah oui,
non,
clairement, il n'est pas original.
Qui était gentil, mais qui est en fait, il est gentil, mais il ne l'est pas. Et le méchant, il n'est pas méchant. Et il y a deux mecs qui n'ont rien en commun, mais qui vont devoir travailler ensemble et devenir les meilleurs amis. Ouais, on l'a vu 40
fois.
Ouais,
parce que là, tu supposerais presque qu'il y a un buddy movie dans le truc.
C'est ça.
Il y en a un peu quand même.
C'est vendu comme ça.
Un petit peu buddy movie, mais sans le voyage.
Non, mais surtout que là, on parle du moment où il a. Où il entraîne son coloc avec lui. À quel moment est-ce que c'est normal de regarder son ex, son coloc, et les deux qui disent « Allez, on y va !» Non, mais surtout, c'est « Hey, je vais me faire buter là-bas, vous venez ?»« Allez, oui, on vient !» Et il emporte des gens. Bon, son coloc, à la limite, doit se battre parce que c'est un tordu, d'accord. Mais il embarque son régisseur, il embarque ce pauvre Alan Arkin dans des filatures. Mais laissez Alan Arkin tranquille. Et son ex, qu'est-ce qu'elle vient foutre là-dedans?
Bon, elle est folle,
qu'elle va dans
ex.
La baston finale, bordel? Qu'est-ce
Alors,
qu'elle vient
on n'a pas... On n'a pas introduit le personnage de l'ex de Mark Wahlberg, c'est que il y a un personnage très très bizarre, c'est que il sort de tôle, donc le premier truc qu'on fait en général quand on est resté enfermé 5 ans et qu'on n'a pas vu sa copine, c'est d'aller la voir. Lui, il la fuit, et c'est une fille qui devrait faire des stages de gestion de la colère, je pense.
Ouais, elle a des petits soucis de tension, ouais. Elle monte vite dans les
voilà.
Tours.
Et donc, on la voit dans la bande-annonce, elle dit « Ah, je t'aime !» Mais elle balance toutes les affaires par la fenêtre. Hein, bon, voilà. Elle est un peu un poil nerveuse. Voilà. Et donc, il y a un jeu de chat et la souris. Donc, elle lui court après, mais lui, il la fuit. Mais alors, il croyait qu'elle l'avait largué, mais non. Enfin, il y a une histoire très bizarre entre eux, quoi. Je comprends pas tout.
Bah, clairement, cet arc ne sert à rien.
Il sert à mettre une scène de cul dans des chiottes, hein, excusez-moi, mais...
Ouais, voilà.
Oui, c'est ça.
C'est exactement ça.
Moi, j'étais déçu parce qu'ils ont pas pété le lavabo. Je m'y attendais, tu vois. Plusieurs fois, on filme le lavabo, je me dis, ils vont le péter. Ouais, ils ont pété le miroir, mais ils n'ont pas pété le lavabo.
Ouais, ça nous donne une scène de cul dans les toilettes d'un restaurant qui sont assez ridicules. Voilà, soyons, disons ce qui est. On casse le miroir pour dire c'est violent, mais après...
Quand tu as vu Boogie Nights, c'est que tu as fait dans ta tête la bite de Dirk Diggler Cinematic Universe. Tu es content de retrouver ce personnage. Mais oui, non, en effet, ça ne sert à rien.
Mais pour dire à quel point ce film ne sert à rien... C'est que dès lors, il y a une scène qui m'a tué, qui m'a fait comprendre à quel point j'allais souffrir. C'est celle où il va passer son permis de poids lourd et sur son papier il écrit « Mais qui a tué ?» qui a tué, je crois qu'il s'appelle, « Qui a tué un tel ? Pourquoi ?»
Il entoure le pourquoi.
Oui, il entoure le pourquoi pour faire comprendre au spectateur qu'il est quand même... Il réfléchit. Non, mais c'est génial. J'ai compris que c'était foutu, là. Vraiment. J'ai compris
C'était le petit manuel du commissaire de police. Les deux questions que tu dois te poser quand tu dois résoudre un meurtre. Un meurtre. Le mobile.
Le moment où j'ai vraiment lâché, c'est le moment où il s'est fait péter la gueule par un chien.
Ah oui, c'était
l'un des seuls passages sympas parce que contrairement à toutes les autres bastons, c'est l'une des seules où j'avais pas l'impression que le monteur était sous à la fois codéine et à la fois coque, parce que à la fois il voulait cutter tout le temps, et on ne captait jamais où étaient les personnages dans l'espace. La règle les 30 degrés, oui, la règle des 30 degrés, elle est absolument pas respectée, c'est fou. Je ne captais jamais dans les bastons où étaient les personnages dans l'espace. Ça partait tout le temps en couille.
Et moi, ce que je regrette, c'est qu'ils ne filment pas l'action correctement et en entier. C'est-à-dire que, surtout vers la fin, on nous tease un gros camion qui va casser des bagnoles. Hein. On nous le tease au début. Mark Wahlberg prend des cours de conducteur poids lourd. Hein. Ok, super. Et donc, à la fin, il défonce des bagnoles. Et ben, au moment de l'impact, donc on voit deux bagnoles qui volent. Et puis, on passe sur une autre caméra qui filme le côté de la route. Parce que je ne sais pas pourquoi. Mais tout est fait pour ne pas filmer l'action. Et même à un autre moment, on a donc Winston Duke qui joue Hawk. Winston Duke, le mec costaud qu'on a vu dans Us ou dans Black Panther, tu vois. Donc lui, quand il pète des gueules, on veut le voir, quoi. Donc il prend un mec, il le fait passer à travers un mur. Et ben on voit le mur qui craquelle un peu, puis pouf, on passe au plan d'après. Mais laissez-nous le plan, laissez-nous profiter des dégâts. On veut s'amuser un peu. Moi, j'ai l'impression que dès qu'il y a un plan qui va être intéressant, hop, on passe au suivant. On m'enlève mon plaisir.
Moi, mon plus grand plaisir dans ce... Dans ce film, ça a été le journaliste qui est joué par Mark Maron, qui est un podcaster et stand-upper américain, qui est l'archétype du journaliste à la fois totalement planqué et payé, et insupportable, mais qui est un acteur que j'aime bien.
Il sert pas à grand-chose dans le film, hein, à part dire « Ah non, je peux pas faire ci, ah non, je peux pas faire ça, ah non, je peux pas faire ci. »
Et je croyais que t'étais l'avocat du film, toi.
Alors, je suis l'avocat. Non, mais moi, en fait, c'est un film qu'il faut regarder en mode j'ai besoin de ne pas réfléchir pendant 1h51. Il est peut-être un poil long. J'ai pas besoin de réfléchir. J'ai envie de rigoler un petit peu avec ma compagne ou mes potes. Bah, tu te mets ça. Et puis voilà, tu débranches ton cerveau et puis il conduit pour toi, quoi.
Non, mais si tu veux un film d'enquête où ça pète des bouches et où tu rigoles un peu, tu mets The Good Guys, qui est aussi sur Netflix.
Ouais,
qui est pas Netflix original, ça.
Non, mais
est-ce que tu vois un mec qui est aussi bien gaulé que Mark Wahlberg? Parce qu'il est encore bien gaulé, ce con.
Bah, il y a Russell Crowe, quoi.
Ouais, non, enfin, Russell Crowe, c'est Vivian Homme maintenant. Hein, oui. Après, cela dit, un combat Mark Wahlberg-Russell Crowe, Russell Crowe, il aime bien péter des bouches, hein, même dans la vraie vie, donc ça peut être sympa. Hein.
Et voilà.
Bon, bref, est-ce qu'on sauve ce film? Alex, je t'ai entendu sur ce film ou pas, Alex?
Oui, c'est vrai que je suis silencieux parce qu'en fait, j'ai essayé de chercher un moment qui m'a plu et non, en fait, j'ai pas. Je suis désolé, hein. Je cherchais vraiment, j'essayais de, tu vois, de vendre le truc et non, en fait, c'était archétypal. T'as le grand black qui mange vegan, le petit blanc qui mange pas vegan et qui baise sa copine juste à côté dans le resto vegan, et puis après, il y a des sidekicks, et puis... non, enfin, chiant, en fait. Donc, je l'ai fait pour vous, les gars, mais merci. prochaine fois, on verra un bon film pour voir, non?
Il faudrait que Netflix en produise, ça serait bien.
Bah ouais. Donc, vivement la prochaine plateforme. Bon, suspense.
Mais peut-être que le prochain sera meilleur.
Peut-être. Transition, je crois.
Transition.
This is my daughter, Shannon Maria Gilbert. There's one here for every day that she's missing.
What was she doing in a gated community, 100 miles away from home in the middle of the night?
My daughter didn't run away. She's missing.
Her last contact with anyone was to 911. What happened?
I'm just a driver. I wait in my car, and that's all I do.
Honestly, who spends this much time looking for a missing hooker?
While searching for a missing girl, one of our officers located four bodies.
What's over there? Tell me right now, damn it! What did you find?
It's not your daughter, Mrs. Gilbert, which is why it's important that you don't talk to the media.
Lost Girls de Liz Garbus, avec Amy Ryan, Thomasine McKenzie, Gabriel Byrne. L'histoire de Mary Gilbert, qui va harceler les flics après la disparition de sa fille pour qu'il enquête sur ce cas de disparition mystérieuse. Un thriller, un polar, une mère de famille qui harcèle les flics à cause d'une enquête non résolue, ça nous rappelle un peu un autre film. Non, Thierry, ça nous rappellerait pas un peu Three Billboards par hasard?
Ouais, tu sais ce que tu me disais tout à l'heure. Alors oui, en effet, dans le thème, on peut ressembler à Three Billboards de Monsieur Kevin McDonough. Après, non, parce que Three Billboards est quand même vachement tourné comme une comédie, là où ici, on est quand même plus sur un thriller. limites psychologiques, enfin non, les vraiment limites. Hein. Mais non, ça n'a. Le thème est potentiellement similaire, mais alors le traitement est tellement différent. Et même si, bon, on va développer, hein, regardez Free Billboards, il n'y a juste pas de. Voilà, regardez ça. Ça, c'est très, très, très bien. Vous voulez une reco, Free Billboards. Voilà.
Quoi, ce film-là, il va pas avoir des Oscars?
Il n'y a pas Frances McDormand qui gueule, donc non.
Ah là, mais ce film, il était long. Il était long.
Alors, il faut savoir que c'est quand même le plus court de la sélection. Hein.
Il ah ouais, mais c'est celui qui m'a distordu le temps le plus facilement, quoi. J'ai trouvé qu'on avait donné des caméras de trop... En fait, j'avais l'impression de voir un film qui est fait par un étudiant en cinéma à qui on a donné du très bon matos. L'image, elle est vraiment très belle. Mais déjà, le montage, je ne le comprends pas. On filme souvent des arbres ou des marais comme ça, gratuitement. En essayant de rendre ça poétique ou mélancolique ou je sais pas quoi. Et je trouve que l'histoire, elle tient, mais sur une feuille de papier cul, quoi. Alors, j'ai appris grâce au générique de fin que c'était une vraie histoire, ce tueur
c'est tiré de faits réels, ouais.
De Long Island. Mmh. Mais je suis désolé, mais c'est nul, quoi. J'ai même pas le droit de dire j'aime pas, c'est que c'est vraiment, c'est nul. Il n'y a pas de rythme. Il n'y a pas de rythme dans ce film. Et puis, il y a des informations et tu as l'impression que les personnages, ils se parlent et ils ne prennent pas en compte les informations qu'on t'a montrées avant. Je ne comprends pas. Vraiment, je n'ai pas compris.
Tu ne seras pas l'avocat de ce film, donc.
Non, cette fois-ci, ça va être moi.
Ah, Thierry.
Bah, moi, en fait, j'ai plutôt bien aimé. Alors après, toute proportion gardée, j'ai bien aimé en comparaison des trois autres. Voilà, ça reste
le moins pire.
Un film que j'ai trouvé assez moyen, pas moyen mauvais, mais moyen, quoi, tu vois, c'est même pas du neutre bon, quoi. On est face à un film qui essaye d'être Zodiac, qui a clairement pas les moyens de l'être, mais moi, c'est vrai que dès le générique de début, ou en plus, parce que là, tu disais, Julien, que tu l'avais vu à la fin, dès le début, il le marque, en fait, que c'est issu d'une enquête qui n'a pas été résolue. Donc moi, dès le début, j'ai fait, ok, on va être face à un film qui, de toute façon, ne va pas nous apporter de résolution, donc on va être sur une enquête qui patauge et on va nous montrer les éléments. Donc à partir de là, je savais à peu près à quoi m'attendre, ce qui fait que j'étais moins surpris, bah, par justement ce côté cacophonique de ces gens qui s'écoutent mais ne se suivent pas. Je me dis, bah, en fait, peut-être que l'enquête a été aussi fondée comme ça, avec des éléments que la police refusait de prendre. Donc du coup, ça, je l'ai plutôt accepté. Après, dans le traitement, oui, en effet, la photo est très belle. Il y a même des plans qui sont vraiment super beaux. Quand tu as les écrans qui sont distordus, genre une personne qui parle à côté d'un poteau et l'autre de l'autre côté pour montrer qu'il y a de la distanciation. À la limite, les marais et la forêt, je me disais, on essaie de nous montrer où est potentiellement le corps. Mais bon, non, c'était en effet très artsy et pas terrible. Et je trouve que, à la limite, Amy Ryan tient très très bien le projet. J'étais content de revoir Gabriel Byrne parce que c'est un mec que j'aime bien, mais putain, le mec est absent la moitié du film. Après, son personnage est assez lunaire, assez dépassé partout, avec à la fois l'envie de rendre justice et à la fois pas l'envie. Enfin bref, du coup, non,
il joue le flic, non, il joue le, je sais plus, c'est le commissaire ou le chef de la police.
Ouais, il joue le commissaire, c'est un commissaire qui a été désavoué il y a pas si longtemps. Ouais.
C'est ça. Qui va se faire dégager pour mauvaise gestion et qui va partir à la retraite. En fait, donc, ouais, il n'est voilà. Plus vraiment là, quoi.
Donc voilà, je trouve que le scénar se tient, mais il manque voilà, énormément de consistance. Moi, 1h35, je ne les ai pas trop senti passer, mais oui, en effet, vu ce que ça raconte, ça aurait pu être bien plus court. Et franchement, bah, vu ce que ça raconte, faites un documentaire, quoi. Parce que là, c'est vrai qu'en fiction, comme ça, où on te suit une nana la moitié du temps, et bah, quand on essaie de t'apporter des onces de réponse, t'as un moment où ça part, là où on voit... une nana qui se fait embarquer dans une voiture, j'étais là, je fais, oh putain, on va nous montrer les points de vue des victimes, ça va être affreux. C'est pas parti là-dedans. Mais oui, ça manque de consistance. Le truc, c'est que tu l'as, comme une pilule, tu l'as déjà oublié, quoi. Tu l'as bouffé, c'est fini.
Et puis surtout, quand tu fais de la fiction sur un fait réel, généralement, tu vas y apporter ton point de vue, tu vois. Alors que là, comme tu dis, t'as l'impression qu'il n'y a pas de point de vue. C'est juste, il rejoue ce qui s'est passé, mais sans apporter de réponse, quoi. Enfin, ou de supposer réponse. C'est
alors,
très bizarre.
Ça vient peut-être de la carrière, de la personnalité de la réalisatrice qui a réalisé surtout des documentaires, énormément de documentaires avant ce film. Tout ce traitement, entre guillemets, neutre. On va suivre surtout les familles des victimes, en fait. Moi, j'ai l'impression que le sujet du film, c'est plus le comment vivent les familles des victimes. C'est surtout, il y a aussi un rapport, il y a un affrontement entre la mère, donc qui, elle, va harceler les flics. Et il y a aussi un point de vue différent qui est celui de la fille, Thomasine McKenzie, que vous avez reconnue sûrement parce qu'elle jouait dans Jojo Rabbit. Voilà.
Ouais.
qui, elle, ben, va se rapprocher des familles des autres victimes, parce que en fait, voilà, ce qui va se passer dans l'histoire, c'est qu'en bougeant les flics pour qu'ils cherchent cette fille disparue, ils vont tomber sur d'autres filles disparues, mais qui sont à cause d'autres affaires, en fait. Ça va croiser plusieurs affaires. Et donc, il va y avoir un groupe de victimes, et il va y avoir cette petite famille qui va se croiser aussi, et il y a les rapports familiaux. Et bon, moi, j'ai bien aimé ces petits passages-là avec les familles. Ces petits instants de rapprochement. Après, c'est vrai que ça pèse pas lourd non plus. Et ouais, on sait pas trop. Ça manque un peu de consistance. Je vous rejoins un peu sur ce point de vue-là.
C'est que ce qui est intéressant, c'est que le film a été est en production depuis 2016. Depuis, ça a pas mal traîné la patte, que ce soit par rapport aux acteurs, par rapport au scénario. Et au départ, ça devait être distribué par Amazon Studios. Ah oui, car il faut savoir que en fait, le film n'est pas une production Netflix, mais ça a été distribué par Netflix. En fait, c'est un film très, comment dire, arty, qui a eu sa première à Sundance, début d'année. On sent qu'il y a quand même quelque chose de très, sorte de proposition, peut-être, pour le coup, je l'ai pas vu. Et il y avait pas mal d'acteurs qui sont passés par la houlette avant de finalement partir. Et ben, comme la très connue Sarah Paulson, qui devait jouer le rôle de Marie Gilbert. Voilà.
Okay.
Mais qui ne l'a pas fait, voilà. Mais donc, on a senti quand même que, ouais, que ça a duré 4 ans de temps de trouver. On sent quand même que, qu'ils ont peut-être manqué le coche aussi par rapport à Three Billboards qui est sorti entre temps.
Ouais, c'est pas le même traitement également, donc bon. Oui. Puis peut-être qu'il y avait la peur de ça aussi, oui.
Peut-être, ouais.
Souvent ça arrive, il y a des films, il y a un film qui ressemble, qui sort pas longtemps avant, et on n'ose plus, du coup, on se fait shipper la production. Voilà.
Et ouais.
Alex, tu l'as vu ou pas celui-là, non ?
Non, je m'en foutais.
Mais tant pis.
Mais voilà. Non, mais au moins c'est clair, au moins c'est réglé. Dans ce cas-là, on va pouvoir foncer, appuyer sur l'accélérateur même, et foncer tête baissée sur la ligne de départ pour le prochain film.
I'm Jack.
Mandy.
I see you like a mechanic.
They're actually called chief engineers.
Cool.
I'm a bit nervous about driving one of these things. I've never done it before.
Neither have I.
When you spun off, you nearly took me out.
I think you're mad because I almost beat you.
See, that will never happen.
So, you've been bitten by the racing bug.
Is that when you can't stop thinking about how much of a rush it is?
Regional championships are next week.
Me being my coach?
Gonna do everything I say. No back chat.
No back chat.
What's that for? Back chat.
It's really quite loud.
Go Karts. Go en VO. Un film australien par Owen Trevor, qui était réalisateur, entre autres, pour Top Gear, d'où son amour pour les sports mécaniques. C'est beau, non?
Et c'est pour ça qu'ils conduisent à droite. Je me demandais, putain, ils conduisent à droite, pourquoi ?
Parce que c'était en Australie.
Je suis très content que t'en parles de Top Gear, Thomas.
Alors du coup, est-ce que c'est aussi marrant que Top Gear ? Cette histoire de jeune ado qui découvre le kart et qui veut devenir le meilleur pilote de kart. C'est pas dresseur Pokéboat cette fois-ci, mais on n'est pas loin.
Un jour je serai le meilleur chauffeur.
Je conduirai sans répit. Pam, pam, pam.
Pardon. Alors c'est vrai que celui-là, il a encore moins d'histoire que les deux autres. Enfin, de profondeur d'histoire, ah, clairement.
Je suis pas complètement d'accord.
Non, celui-là, c'est l'école des champions, sauf que t'as pas une équipe de hockey, t'as du kart. Et oh là là, c'est les underdogs de l'école, ceux qui se font frapper ou qu'on n'écoute pas, qui vont créer un kart, enfin une écurie de kart et qui vont gagner. Oh là là, comme c'est original. Ouh. Vous sentez mon enthousiasme ?
Oui.
C'est un film pour enfants de moins de 10 ans, quoi.
C'était quand même moins bien que Monster Car.
J'ai pas un enfant de moins de 10 ans.
C'était juste pour le côté enfant de moins de 10 ans, voilà, vu que c'est un scénariste.
Thierry, toi qui es un enfant de moins de 10 ans, comment l'as-tu trouvé?
Moi, je vais revenir après dessus parce que j'aurais juste des blagues à faire. Mais non, justement, je pense que là, je vais... Tout à l'heure, il y a Alex qui a fait une magnifique comparaison quand il disait que ça ressemblait à Karate Kid. Et du coup, je pense que je vais lui laisser la parole pour celle-là parce que... Je le vois qui bouillonne, là, je vois qu'il fait des petits gestes en mode moi.
Alex, vas-y, Alex.
Tellement de choses à dire sur ce film.
Mais toi, t'as 6 ans, t'avais le droit de le regarder, Thierry.
Complètement. Thierry m'a laissé regarder. Comme je disais, c'est une sorte de karaté kid,
Carta Kerrigan.
On avait fait la blague.
J'ai cherché beaucoup de jeux de mots et c'était difficile.
C'est un Kartake Kid qu'en fait j'attends plus Go Kart 2 qu'on pourrait assimiler au vrai film qui serait une sorte de jeune homme qui rêve de faire la NASCAR. Mais en attendant, bon, on a le préquel qui est le suivi d'un jeune homme qui est un bouseux, qui a une folle envie de trouver de quoi s'amuser. Donc pour créer sa petite team, etc., il va commencer à se passionner pour les cartes. Déjà, c'est chiant de l'expliquer tout ça. c'est terrible. Je me demande à quoi pensait le scénariste. Quoi qu'il en soit, on retrouve tous les poncifs. Hein, le vieux sensei qui dit non, mais qui en fait lui le laisse laver la voiture, puis le laisse travailler. Alors, laver la voiture avec les pieds, très important.
Et surtout, peindre avec la tête.
Peint avec la tête, exactement, pour lui permettre d'acquérir les compétences nécessaires.
Pour mieux encaisser les jets.
Je l'ai pas vu, mais là, pour ça, ça me donne envie.
Vital pour un vrai cartiste, si ça se dit. Et voilà, au fur et à mesure, il comprend qu'il commence à avoir les compétences. Alors, il monte en grade, il commence à trouver une petite copine qui est cool, paraît-il, puisqu'elle fait du kart depuis quelques années. Il trouve un sidekick petit, gros, black pour l'accompagner. Évidemment, il a l'équivalent d'un Drago Malfoy en version...
Ah ouais, c'est vraiment Drago. Hein.
Ouais, c'est Drago Malfoy, on est d'accord.
En plus baraque, un peu, un plus costaud quand même.
Ouais, c'est ça. Et
oui, plus grand.
Qui lui dit, tu vas gagner, t'es le meilleur, alors que ça va, c'est du kart, les gars. Et voilà, on en fait toute une histoire et ça reprend tout simplement le scénario de n'importe quel film de danse avec le type un peu paumé qui rencontre une fille, qui l'amène dans une boîte et qui, en fait, tout le monde danse. Et puis après, il découvre qu'il y a un championnat, il gagne le championnat, boum, bim, bam. Bref, voilà pour le scénario.
J'ai compté tous les tropes, j'avais pas assez de place sur la feuille. Parce que t'as oublié que c'est un mec qui a perdu son père et donc il est avec sa mère célibataire, il va essayer de caler sa mère avec le flic, donc il va y avoir la romance avec la mère et le flic. Et donc comme c'est un flic qui va essayer de l'arrêter, donc il y a ça aussi. Il y a la rédemption, parce qu'il y a toujours un moment, dans les épreuves, il gagne les épreuves, puis au moment il en perd une, mais bon, comme il l'a perdu, mais pas de trop, comme ça, il y a un petit truc qui fait qu'en fait il a pas complètement perdu. Il peut être repêché et donc il va pouvoir s'excuser au reste de son équipe qu'il a déçu et ils vont être plus forts pour le final. On a une réconciliation amoureuse sous la pluie.
Alors cette pluie
qui sort d'une part
et qui s'arrête très très long en même temps
et qui sort. Ouais, bah oui. Sinon il y a pas de course. Hein. C'est des cartes, c'est des pneus lisses. Hein. Les mecs, on peut pas faire de course sous la pluie.
Sincèrement, j'ai pleuré à la fin. J'ai pleuré. Voilà, je le dis. C'était beau. J'ai pleuré.
C'est vrai.
D'émotion ou de douleur ?
Je ne commenterai pas. Non, okay. En fait, en vérité, Thierry était allongé, je vais balancer, et s'est endormi. Quant à moi, je suis passé toutes les 10 minutes pour voir une scène, et du coup, j'ai pu raconter le film. Donc, on était investis, mais je pense qu'on peut dire que le film ne nous a pas apporté plus que ça.
Ouais. Moi, j'ai le seul truc qui m'a fait tilter dans le film, je vous ai posté un lien là, de Libé là-dessus, c'est le fait qu'il joue contre le fantôme de son père sur une console, sur un vieux jeu. Et ça, c'est une histoire vraie.
Ils nous ont fait de Speed Racer, ouais.
C'est une histoire vraie. C'est un mec qui jouait sur Xbox avec son père à un vieux jeu qui s'appelait Rally Sport Challenge et qui, un jour, a rallumé la console et s'est rendu compte qu'il y avait le meilleur tour d'un circuit qui avait été fait par son père et du coup il pouvait rejouer contre son père grâce à ça.
Mais c'est cool comme histoire, ça. Ils n'ont pas pu faire ça.
Bah ils le font.
Qu'est-ce qu'ils ont fait?
Ah merde.
Pas très bien, mais ils l'ont fait.
Ça devait faire partie des moments entre les 10 minutes où t'as pas vu ce passage. Et moi je dormais pas là encore. Bah moi le seul truc du coup que je vais dire, bon alors non, contrairement à ce qu'on peut penser, je n'ai dormi que dans les 20 dernières minutes et au moment où Alex est parti de l'appart et là je me suis allongé comme un con et ouais j'ai lâché. Alors en gros je pense que si tu regardes mes recherches Google pendant le film, c'est là que tu vois à quel point j'étais investi et les choses auxquelles j'ai pensé. Donc moi par exemple j'ai quand même cherché...
Premium France.
Voilà, Pornhub Premium France évidemment et Dorcel gratuit, n'oublions pas. Merci le confinement qui nous a enfin apporté des vraies valeurs. Je suis hyper. Non, moi, j'ai quand même cherché à vérifier si le personnage principal, la tête de bûche numéro 36 qui ne s'est pas joué, n'était pas le fils de Billy Zane, parce que j'ai trouvé qu'il ressemblait à Billy Zane et ça m'a hanté pendant la première heure du film.
Le héros principal ?
Ouais.
Il a l'air archi inconnu. Hein.
Ah non, mais non, mais c'est juste qu'il ressemble. Mais... Enfin, pour rappel, Billy Zane, donc du coup, c'était le méchant dans Titanic. C'est surtout le mec qui joue un mannequin dans Zoolander qui leur apporte la providence. Et c'est surtout un mannequin très très mauvais à qui ils ont fait faire des boosts, genre le roi Scorpion 4, ce genre de truc.
Mmh. Donc, voilà.
J'ai cherché aussi sur quelle plateforme était situé Ricky Bobby, roi du circuit, parce que ça m'a donné envie de mater Ricky Bobby, roi du circuit. Voilà, alors que c'est très mauvais aussi. Et j'ai cherché aussi, parce que bon, bah, évidemment, moi, le kart, j'ai associé ça au NASCAR tellement les persos étaient débiles. Et j'ai cherché aussi quel était le nom du produit qu'utilisait Cartman dans l'épisode Pauvre et stupide pour avoir le droit d'être suffisamment con pour faire du NASCAR. Et la réponse, c'est le Vagisil. Voilà,
okay.
C'était important de savoir ça.
Zou, un avis, je t'ai pas entendu sur ce film.
J'ai pas passé un si mauvais moment que ça devant le film.
Il en faut.
Il est pas, enfin, il est pas bon. Hein, j'irai pas jusque là, mais je peux pas dire qu'il soit mauvais. Il y a des running gags qui me font beaucoup rire, notamment le rire du sidekick méchant, qui à chaque fois que le méchant passe, il a un sidekick qui rigole. Très niaisement, très, très hystériquement en arrière-plan.
Voilà, ça, comme ça.
Mais c'est systématique. Et bon, au bout de la troisième fois, ça commence à me faire rire. Et le fait que les méchants et les salcons pendant tout le film, à la toute fin, ne sont pas si cons que ça, vu que le père est fier de sa fille et que le Drago Malfoy admet sa défaite et serre la main du champion.
Oui, il y a une happy end, mais moi, il y avait une scène de baston digne d'AB Productions quand même à un moment.
Ah putain, mais oui.
Où ils vont pour se battre et puis il y a un adulte qui fait « Bon, les enfants, vous arrêtez. » Bon, ok.
Cela ne marche pas dans la vraie vie.
J'aimerais sauver ce film, j'aimerais, mais c'est compliqué, c'est très compliqué. Déjà, il y a des problèmes de plan, il y a des problèmes de caméra sur des champs contre champs qui sont assez bizarres. Dans un champ contre champ où deux personnages se regardent, il y en a un qui fait une tête de plus que l'autre, hein, et le personnage le plus petit est filmé en contre-plongée. C'est curieux.
C'est la scène du roller, c'est ça ?
Je sais plus. Non, mais plusieurs scènes comme ça. Il y a le héros et sa pote, sa copine, ils se parlent, et la fille est filmée en contre-plongée. Donc on se dit, donc c'est pas le regard du mec, c'est le regard de qui ? C'est le regard du petit, du troisième copain qui fait encore une tête de moins ce qu'il les regarde dans les buissons. Comment ça se passe?
Je sais c'est pas. C'est l'Australie, quoi. C'est un autre pays.
Ah, c'est ça, peut-être que les normes sont inversées, c'est de l'autre côté de la Terre, je sais pas. Et non, moi, il y a un truc qui m'a fait plaisir, c'est bon, le mec a réalisé des épisodes de Top Gear et on le sent par moments et on sent que les épreuves à la con, genre Karate Kid, c'est un truc qui est inspiré de Top Gear. Le scénariste a pas bossé avec, je crois pas, mais on a cette intuition-là. On sent que ça a dû inspirer. Mais ça manque. Disons qu'il manque Jeremy Clarkson et ses potes, en fait. Ils auraient fait d'autres épreuves encore à la con et on aurait pu se marrer en détournant les règles, hein, et en s'amusant de ça. C'est le seul moment où il y a un peu de fantasy et c'est pas exploité à fond et c'est pas bien amené. Et après, ouais, le reste, ça roule, mais c'est pas un circuit, c'est des rails, quoi. Le mec, il aurait dû être pilote de train, tellement ça roule, ça dépasse pas, quoi. C'est dommage, c'est dommage. Après, c'est plaisant comme téléfilm, hein.
Ouais, les scènes où il conduit le kart, c'est tellement pas crédible. Quand il est face caméra, là, avec son casque, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, et que la caméra tremble un petit peu, pour faire style de la vitesse. Non, regardez Jour de tonnerre, si vous voulez voir un film avec des voitures.
Ah non, mais arrête, pas Jour de tonnerre, non mais attends.
Il y a Le Mans 66, il n'y a pas longtemps aussi.
Voilà.
Ah oui.
Non, mais
Jour de tonnerre.
Jour de tonnerre, mais quelle horreur, quoi. C'est Top Gun avec des bagnoles.
La rencontre Tom Cruise, Nicole Kidman. Quand même.
Non, ça fait pas rêver. C'est Tony Scott à la réelle et c'est pas bien. Arrêtez.
Moi, j'ai bien aimé Jour de tonnerre.
Regardez Driven. Avec Stallone.
Ah, Driven avec Stallone. Ça défonce.
Regardez Top Gear.
Ouais, regardez Top Gear.
Ouais,
aussi.
Regardez Top Gear. Ou The Grand Tour sur Amazon.
Voilà.
Mais alors du coup, Marwan, toi qui nous as entendu parler, voilà la vraie question, tu es le spectateur qui n'a pas vu le film. Est-ce que tu as envie, là, une fois qu'on aura quitté cette conversation, de voir Go-Kart chez toi?
J'appelle ça de la curiosité morbide. Mais ouais.
C'est facile. Est-ce que tu regardes encore Karate Kid?
Non. J'ai vu quand j'étais gamin. Ta réponse. Et puis après, j'ai plus le temps. Enfin, maintenant, si j'ai du temps. Mais je vais avoir du temps pour Go-Kart, hein, maintenant. C'est triste quand même. Je souffre intérieurement. C'est tout pour ça.
Bien, go-kart, reste en cale sèche sur la piste de départ. Tu n'es pas qualifié pour le prochain tour, tu n'iras pas en phase finale. Tant pis.
Au régional.
C'est la voie de garage. Some real things have happened lately.
I want to know why. The reporter with a moral compass. Always a step ahead. Everything that happens, she's sourced up and in print.
These people are starting to move surplus arms to Contras. We can't just look away.
Mission shipping crates for M16s, most likely. He's the old man.
Dad.
Ellie. I got a big deal coming. The big deal.
Sa dernière volonté, The Last Thing He Wanted. Sorti le 21 février 2020 sur Netflix, de Dee Reese avec Anne Hathaway, Ben Affleck, Willem Dafoe, Rosie Perez. Mon Dieu, mais quel casting sur Netflix d'un coup, mais que se passe-t-il ? Thierry, toi qui l'as vu.
Tu vois ce film que j'ai quand même ignoré à sa sortie, hein. Je veux dire, d'ailleurs, c'est sorti sur Netflix, j'ai ignoré, j'ai fait non. Bah j'aurais dû continuer sur cette lancée.
Et pour l'information rapidos, c'est aussi un film qui n'a pas été produit, mais juste distribué par Netflix. Et c'est aussi un film qui est sorti chez Sundance. Donc voilà. Donc on sent qu'il y a, on va dire, une appétence au film Sundance chez Netflix. Vous voyez ces petits films qui ont... Quoi qu'en plus, il y a des gros acteurs dedans. Et c'est ces films-là voilà, qui n'auront pas vraiment de carrière. Donc c'est racheté pour une bouchée de pain. Voilà.
Alors, c'est certes tout à leur honneur, mais après, une fois de plus, hein, nous, on a quand même essayé d'expliquer à Netflix que l'important, c'est de distribuer des bons films. Bon, l'essentiel, ce serait d'en produire des bons, mais ça, visiblement, ils ont encore du mal. Mais voilà, à partir du moment où un film n'est pas bon, arrêtez de le distribuer.
Alors, non, là, justement, la question, Thierry, moi, je regarde ce film, je vois recommandation Netflix 85%, Metascore 35%. Qui a raison?
Qui a raison? Alors, Metascore et peut-être Rotten Tomatoes aussi. Qu'est-ce qu'ils disent? Tiens, oh, 5% Rotten Tomatoes.
Ah, tiens.
Ouh, ça pique.
Voilà.
Avec une note moyenne de 2,75 sur 10. Metacritic 35, comme tu disais.
Non, c'est bien. Envie.
Ah, ben tu vois, j'aime bien parce qu'il y a Nick Allen. Tu vois, Nick Allen, c'est un des gars qui bosse pour le site de Roger Ebert, qui a écrit que c'était absolument incompréhensible, que c'était un film qui était totalement incompréhensible à un degré impressionnant, quoi.
Alors, et justement, c'est quoi l'histoire ? Parce que il y a des histoires de conspiration, une fille journaliste et son père.
Et pas vraiment. En fait, ça te démarre.
J'ai vu que la bande annonce. Hein.
C'est ça. En fait, ça te démarre sur la guerre civile au Salvador. Alors le truc, c'est qu'en plus, pendant une bonne heure, moi, j'ai cru que ça allait parler de ça. Donc, on t'écrit. Enfin, t'es balancé dans la guerre civile. T'as Rosie Perez et donc Anne Hathaway qui sont là-dedans, qui jouent toutes les deux des journalistes. Et ça te met juste un panneau avec écrit, c'est genre 10 de la guerre, 30 de morts, machin, on est là. Et là, je fais, ah d'accord, c'est le seul contexte qu'on va me balancer. Alors après, dans les discussions, dans les conférences de presse, j'ai vu que ça parlait des contras. Donc je me suis dit, ok, ça va parler d'Amérique du Sud, les contras, ça va peut-être parler des enlèvements de journalistes, ça va peut-être parler d'un truc comme ça. Et en fait, non, ça c'était juste le... Et en plus, on t'insiste bien pour te dire que ça c'est super important. Et en réalité, le film parle du fait qu'elle revient, qu'elle est plus ou moins désavouée aussi par son taf et qu'elle va du coup s'occuper de la campagne présidentielle. Voilà, elle va couvrir l'élection présidentielle alors qu'elle est journaliste de guerre, elle n'est pas contente. Voilà, le conflit était trop gros donc on la rapatrie, on le dit maintenant, tu fais des trucs pépouze. Et c'est à partir de là que le film démarre plus ou moins, qu'on te sort le personnage de son père, qui est joué par Willem Dafoe, qui débarque de nulle part, donc qui joue un gars assez sénile en fait, qui est un trafiquant d'armes, avec qui elle a des rapports du coup assez complexes, qui n'arrête pas de parler du fait que sa mère va l'appeler alors que sa mère, elle l'enterre au début du film. Et donc, à chaque fois, il lui fait « Papa, maman est morte. » »« Ah ben non. » Et puis, 10 minutes après, « Quand est-ce que ta mère va m'appeler ?» Voilà, c'est le seul indicatif pour te dire que Willem Dafoe est sénile dans ce film. Et en gros, il crève. Et du coup, dernier truc, juste avant de mourir, il lui dit qu'il était sur un énorme deal au Nicaragua. Et du coup, il faut qu'elle l'aide à le faire. Et vu qu'il meurt, elle va l'aider. Elle va aller faire le trafic d'armes à sa place. Et ça part dans tous les sens parce que ça... le moment où on va partir sur le titre du film, Sa dernière volonté, qui est le même titre en anglais, hein, donc c'est pas une connerie de traduction, c'est au bout de, mais facile, 1h15 de métrage sur 1h50. Donc t'es là pendant une heure et quart, on te balade nulle part, tu sais pas du tout où ça va, tu sais pas qui sont ces personnages, la plupart tu t'en fous. Mais j'étais ravi de voir qu'il y avait Rosie Perez, et je suis content de voir qu'elle est en train de faire un gros retour sur les écrans. Mais elle sert à rien. Il y a Ben Affleck, pareil, il est là pour faire coucou et pour, disons-le, une scène de cul, hein, parce que bon, faut bien quand même des scènes de cul de temps en temps, qui est très très soft. Hein, mais c'est juste que vraiment, lui, il lui ouvre 2-3 fois, il couche avec, voilà. Et voilà. Ouhou, c'est génial. Et en gros, tu te fous royalement des tenants et aboutissants, ça n'a pas d'intérêt. T'as l'impression qu'il y a plein d'histoires qui ont été filmées à part, qui sont collées là, et tu sais, tu captes rien, en fait, tu captes jamais rien. Et quand ça démarre, en gros, voilà, elle arrive, trafic d'armes, ensuite elle est planquée au Nicaragua le temps qu'on arrive à trouver un moyen de la rapatrier, et du coup, elle fait la femme de ménage pour un riche homosexuel qui est planqué là, qui tenait un cabaret, enfin une sorte de cabaret, mais qui, du coup, parce qu'il est gay, s'est fait vachement éclater par les locaux, donc là, il est un peu en faillite. Et le seul truc, c'est j'ai bien aimé ce passage-là parce que le mec est joué par Toby Jones, et Toby Jones, c'est le meilleur... Et le meilleur second rôle de la planète. Donc, en fait, quand il est là, le mec, il te fait remonter le niveau du film en 2 secondes parce qu'il a 36 000 émotions à la seconde. Mais c'est tout. Enfin, je m'en fous de voir un film où il y a Toby Jones et qu'il est bon. Enfin, je préfère voir des bons films avec Toby Jones, quoi.
C'est une question. C'est
plus l'incompréhension qui domine, en fait.
Est-ce que c'est dans la même incompréhension que Cuban Networks? Pour voir. Pour
exactement. Placer, exactement. En fait. Tu vois, au moment où tu as commencé à poser ta question, j'ai fait il va aller sur Cuban Networks.
Ah, c'est vrai, c'était vraiment quelque chose pour le coup.
Mais toi, t'as vu quelle version? T'as vu la version à Deauville ou t'as vu la version remontée?
J'ai vu la version encore moins compréhensible à Deauville.
Ah, voilà, parce que nous, on a vu la version remontée avec Thomas. C'était un calvaire, hein, ce truc.
C'était compliqué. On comprenait, non, mais il fallait s'accrocher.
En fait, ça m'a fait penser. Alors, au début, la raison pour laquelle je me suis vraiment, vraiment, vraiment accroché. Alors, attends, je vais chercher le nom du film. Attends, Baron, tu vas peut-être pouvoir m'aider. Enfin, même les garçons, vous allez pouvoir m'aider. Si je vous dis Southland Tales. J'ai pensé à Southland Tales et le fait que je ne capte rien au film, mais qu'une fois que tu le décortiques et que tu y réfléchis, il est assez brillant. Il a juste un problème de montage. Ah. Et je me suis dit, ça va être pareil. Une fois que je vais capter, je vais dire putain, c'est brillant. Du coup, ça m'a accroché. Hein. J'ai tenu l'heure 55 et là, et puis pour être finalement très déçu, quoi.
Mais il n'y avait pas The Rock ni Buffy.
C'est ça, ouais, il manquait The Rock et Buffy, quoi.
Ça va, Michel Geller. Ça va
apporter un petit cabotinage, quoi.
Non, c'est dommage.
Est-ce qu'on pourrait en tirer un mème de ce film comme on en a tiré un?
Franchement, en fait, lequel, quoi? Il n'y a rien de kiffant. Il n'y a aucun moment où tu kiffes, quoi. C'est agaçant. J'étais limite content quand même de revoir Anna Taoué dans un rôle de femme assez forte et tout, qui te tient bien pas trop, enfin qui te tient pas trop mal le métrage. La dernière fois, c'était dans Dark Waters, j'ai apprécié son rôle, mais je me disais, bon, j'ai envie de l'avoir sur le devant et tout. Mais pour ça.
C'est vrai que de constater ça, ça m'a donné envie de créer une musique, c'est. Où est Anna Taoué? Où es-tu? Tu vois, genre, et puis en gros, l'idée, ce serait de parler des films où elle est nulle, où elle n'arrive pas à exister. C'est dommage, vraiment. Je suis triste, je suis en deuil. Voilà.
Dans celui-là, pour le coup, elle existe, hein, mais c'est juste le personnage qui est pas mal. Le personnage, ça va en soi, c'est vraiment le big glooba de l'intrigue qui fait que t'es perdu tout du long. Parce qu'en soi, si l'intrigue se tenait, non, elle bosse, il n'y a pas de souci, tout le monde bosse, même Willem Dafoe est cool. Enfin, alors que tu le vois à peine, non, tout le monde fait son taf, quoi. C'est juste que le métrage ne sert absolument personne alors qu'ils ont l'air assez impliqués, quoi.
Comment on a pu avoir ces acteurs-là pour ce film? Ça, c'est vraiment la question. Et le budget, comment l'argent. Ça a pu se faire? L'argent.
Ben Affleck, il a déjà tourné pour des. Alors là, tu me disais, il n'était pas prévu pour Netflix. Parce que j'allais dire, il y a Triple Frontière aussi, avec Ben Affleck dedans. C'est pas la première fois qu'il est produit ou distribué en exclusivité sur Netflix, le Ben Affleck. Et Anna Taoué, comme tu le dis, ça fait un moment qu'on ne l'a pas vu. Ou dans des trucs marquants, en tout cas.
Je l'ai vu dans Le Stagiaire, il n'y a pas longtemps.
Ah, Le Stagiaire avec De Niro.
Oui, il est bien, moi, j'ai bien aimé celui-là.
C'est potable.
Oui, j'ai passé un bon moment.
Est-ce que vous avez vu le film Mudbound? Avec Carey Mulligan, Jason Clarke, Jason Mitchell, ça vous dit rien?
Non.
Ça a fait une petite sortie, je crois.
Et le dernier truc qui était sorti chez nous, en tout cas en France, où elle avait été très marketée et où elle était dans le devant de l'affiche, ça date pas d'il y a si longtemps, mais c'était affreux. Bon, déjà, je pense à Ocean's 12, qui était
Ah oui, c'est
Ocean's 14, pardon. Ocean's 14,
c'est... Ocean's
8.
Ouais, on sait plus.
Il y a un chiffre siècle aussi.
C'était, voilà, et je pensais au coup du siècle. Le coup du siècle avec Rebel Wilson qui était mais une bouse horrible. Et ça, c'est le dernier truc dans lequel je l'ai vu et dans lequel elle était en tête d'affiche. Quoi. Donc non, elle est quand même bien meilleure là-dedans. Et c'est dommage parce que le film se tient moins bien qu'un truc comme le coup du siècle qui pourtant est à chier.
Mais c'est vrai que c'est bizarre. C'est bizarre que... Bon, encore une fois, c'est de la distribution, mais savoir comment ça a pu être monté, s'il est passé à Sundance, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup d'argent. Je sais pas, c'est...
Mais est-ce que c'est vraiment un gage de qualité en 2020 de passer à Sundance ?
Non, c'est pas... je voulais pas dire ça par rapport à, par rapport à la qualité, mais par rapport à son budget. C'est qu'en général, c'est des films à très petit budget ou à budget qui est similaire à ce qui se passe en France. Et en général, ces acteurs-là sont plus des habitués des studios. C'est pour ça, en fait. C'est plus cette question-là. C'est comme... Après, okay. Peut-être que ça s'est croisé, peut-être qu'ils voulaient faire autre chose, être plus libre, je sais pas.
Je sais pas si Sundance c'est plus trop un gage de qualité. Enfin, je sais pas, le dernier truc. Ouais, non, quoique, je sais plus. En fait, je me renseigne plus trop sur ce qui est primé à Sundance. Je vois des films qui le sont, mais du coup, j'arrive plus à les replacer par année. Donc, je pourrais pas te dire. Mais moi, généralement, Sundance c'était plutôt des sélections sympas.
Ah bah. Cette année, c'est pas trop le cas.
C'était quoi ? Vas-y.
Bah non, ce que je veux dire, c'est entre celui-là. Et Lost Girls, c'est voilà, c'est.
Ah oui,
c'est
d'accord.
Qui était à Sundance, c'est pour là, donc vous n'avez pas trop pris votre pied, donc c'est pas forcément cette année-là que Sundance va prouver que c'est un bon promoteur de films américains.
Bien, c'est donc la tristitude, c'est sa dernière volonté, c'est parce qu'il est mort, quoi. J'ai envie de dire, le spectateur est mort, et c'est pour ça que c'est sa dernière volonté, c'est ça. C'est, le bon goût est mort sur Netflix, on peut le dire maintenant ou pas?
Non, je pense pas. Bah, pour le coup, il y a Marriage Story qui est sorti récemment.
Ah oui.
T'avais aussi, comment ça s'appelle, Dolemite, qui était vraiment sympa.
Dolemite is my name, qui était vachement bien.
Ouais, qui était vraiment, vraiment bien. Bah, The Irishman, qui est dense, mais aussi, pour moi, est vraiment un gage de qualité, même si c'est sous les films de Scorsese en général. Mais non, il y a quand même des bons films. Mais, et même Annihilation, aussi. Et ça commence, Roma... Après, c'est de la distribution.
Une fois de plus, c'est... Une fois de plus, moi, ça, j'appelle pas ça des Netflix Originals. Enfin, pour moi, c'est juste des réals déjà talentueux qui ont déjà fait leurs preuves. Là, tu parles de Noah Baumbach, on parle de Alex Garland, on parle de gens qui ont déjà du bagage et qui se retrouvent avec Netflix, qui leur acceptent leurs conditions pour qu'ils puissent faire leurs films. Pour moi, c'est pas pareil. Je vois vraiment une différence avec les films Netflix que j'appelle comme tels. Pour moi, c'est vraiment les trucs en mode on fait une commande, on prend n'importe quel réal et on le fait taffer. Bon, c'est plus pour les séries que ça se passe comme ça maintenant. Tant qu'ils sont avec des bons réals, ben les réals ça fait leur taf, quoi, donc ça va.
Bah oui, mais après pour le coup, c'est quand même des autres studios, c'est qu'il y a des réals qui se détachent, donc c'est des noms qui se détachent. Mais ouais, l'idée c'est que. C'est... Après, par exemple, en réal qu'on connaît, t'avais le fameux film avec Will Smith, je sais plus comment il s'appelle.
Pitch. David d'ailleurs, avec Bryce.
C'est ça, voilà. Et t'as des films comme ça avec des réals qui avaient fait des gros films ou des films vraiment. Bah, pour le coup, David d'ailleurs, il a fait un bon film avec Brad Pitt et.
Mais il a fait Fury, ouais, c'est ça.
Voilà, Fury, voilà.
En fait, il nous a fait un Tom Hooper, tu sais, un peu comme Tom Hooper avec le discours d'un roi. Le mec, il a fait un film qui était plutôt correct et du coup, on l'a propulsé, c'est on lui ça. A fait plein de thunes pour faire de la merde.
Voilà, c'est un Tom Hooper. Moi, je trouve que c'est pas mal. Hein.
Allez, messieurs, c'est la fin de l'émission. On a bien digressé. Je l'attendais. Mais c'est du temps exprès. C'est le moment des recos. Chacun, je vous laisse faire une reco. Alors, Netflix, exclu Netflix ou pas, hein, c'est à vous de voir. Comme vous le souhaitez.
Moi, j'ai un truc.
Zoo, oui.
Le dernier spectacle de Marc Maron sur Netflix. vu que je l'ai vu ce week-end, je me suis bidonné. Et Marc Maron jouait dans Spencer's Confidential, donc ça fait le lien.
Mm-hmm. Du stand-up. Julien, un truc à recommander ?
Alors oui, sur Netflix, je viens de finir un documentaire qui s'appelle Formula One Drive to Survive, qui est une série documentaire qui suit la saison de Formule 1 depuis les coulisses.
D'ailleurs, ils me la mettent en pub après Go. Je sais pas si vous l'ont fait aussi.
Non, mais je l'avais déjà vu. Moi, ils m'ont mis un truc de mec qui retape des vieilles voitures.
Ah, cool.
Et pas forcément si la Formule 1 vous intéresse, mais l'aventure humaine derrière les gens qui gèrent les écuries est parfois drôle.
Nickel. Marwan, une reco ?
Oui, c'est un film qui m'a fait chialer hier soir. C'est Mirai, ma petite sœur, que je n'avais pas vu à sa sortie.
Ah oui.
Qui est vraiment incroyable. Vraiment, pour le coup, c'était une grande claque d'une justesse.
C'est un biopic sur Mirai Mathieu.
C'est ça, voilà. Vraiment, j'ai pleuré.
C'est un animé.
Sa coupe de cheveux. Oh, on avait dit pas les cheveux, mais ouais. Non, vraiment, c'est un très, très, très beau film. Un très beau film d'animation. Vraiment, c'est Mamoru Osada, c'est ça. Et après, ouais. des films comme Summer Wars et Le Garçon et la Bête, je trouve que Mirai et ma petite sœur est vraiment, vraiment son meilleur. Voilà.
Alex, une reco ?
Alors oui, à la limite, ma reco va être sur du documentaire, parce qu'on en parlait tout à l'heure, c'est aussi du documentaire Netflix, et je pense que un très très bon documentaire, et je dirais même le meilleur que j'ai jamais vu, était sur Netflix, et il s'appelle Wild Wild Country, et c'est de la pure bombe, donc je vous invite fortement à aller le voir. Quelqu'un l'a vu ?
Non.
Et non.
Et ben voilà. Wild Wild Country, c'est 6 épisodes et vous allez les bouffer les gars parce que c'est juste ouf, le suspense est haletant et, et pourtant c'est qu'un documentaire. Voilà.
Thierry ?
Ah bah quitte à rester du coup dans le thème, bon les films on en a quand même cité pas mal, des films qui sont originaux, donc on a cité Roma, Marriage Story, on a cité Irishman, Uncut Gems, je pense pas en avoir beaucoup d'autres à rajouter. Je sais pas, peut-être 2-3 séries que j'avais pas citées, il y a quand même Mindhunter qui était vachement bien, qui était instigé par David Fincher, ils ont sorti 2 saisons. Bon maintenant j'imagine que tout le monde connaît déjà, mais si jamais vous avez pas eu l'occasion de vous lancer dedans, allez-y, c'est quand même assez chambé, c'est bien foutu. Et vu qu'on parle de Marc Maron, du coup, je vais parler aussi de Glow. J'avais fait un petit aparté avec Radio Beercatch, si je ne me trompe pas du nom du podcast là-dessus.
Yes.
Qui avait fait du coup un hors-série spécialisé pour Glow, qui est donc une série sur le catch, avec Marc Maron qui joue un réalisateur qui doit faire une série pour la télé spécialisé dans le catch féminin dans les années 80. C'est très drôle, c'est très sympa à regarder et à la fois très humain. Les 2 premières saisons sont fantastiques, la 3e un peu moins. Mais ouais, c'est quand même très 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 chouette à regarder. Voilà, je pense que c'est bien. Et tout le monde est mort.
C'est ça.
Non.
Non.
On t'écoutait religieusement.
Non. Non. Et moi, je vais faire une reco aussi. Alors moi, je vais faire une reco anime. Alors j'ai cherché longtemps pour trouver un truc qui m'intéressait sur Netflix. Hein. Ça a été très compliqué. Et sans répéter les vieux classiques. Moi, j'aime bien l'anime sur Netflix, je l'ai dit. Alors, il y a les classiques, on l'a dit. Evangelion, hein, classique. Les Ghibli, c'est classique aussi. Je vous dirais bien les Code Geass aussi, mais j'ai vu qu'il n'y avait qu'une saison sur 2, ce qui est incompréhensible puisque la série a plus de 10 ans et que...
Cowboy Bebop.
Non, il n'y a plus.
Y a Cowboy Bebop. Mais ils devaient faire le live à un moment et je sais pas, j'ai plus entendu parler. C'est une bonne nouvelle, c'est-à-dire que j'espère qu'ils ne vont pas le faire. Voilà, je prie. Bref. Du coup, une série dont j'ai déjà parlé dans l'épisode spécial sur le pif, c'est Devilman Crybaby de Masaaki Yuasa. Qui est réel, entre autres, de Ride Your Wave, qu'on avait vu au PIF l'année dernière.
Oui.
Qui a également réalisé d'autres animes, hein, plein d'autres, on ne va pas tous les citer, qui fait aussi d'ailleurs The Tatami Galaxy et Night is Short, Walk on Girl, qui sont également dispo sur Netflix aussi également. Mais comme j'en ai parlé, je vais chercher encore autre chose, donc je cherche. Et il y a une série que j'ai découverte sur Netflix, c'est pas une exclu, donc vous pourrez la trouver ailleurs, c'est... Eh non, désolé. C'est Last Man, c'est une anime française, voilà.
Ah oui.
Ça date de 2016 et c'est vachement bien en fait. J'étais passé à côté à l'époque et je l'ai découvert sur Netflix et ça déchire. Voilà, c'est tout.
C'est doublé par Orelsan, non ? C'est celle-là ?
Oui. Je crois, ouais, c'est ça. Et ça déboîte.
Je me la suis bouffée.
Je l'ai bouffée d'un coup aussi, donc ça fait partie des trucs, c'est pas une exclu, mais voilà, c'est vachement bien.
Attends, parce que tu parles d'animé, je me suis éloigné 2 petites minutes, donc au pire, tu couperas, et je sais pas si t'en as parlé, vu que tu parlais d'animé. T'as cité BoJack Horseman ?
Dans les exclus Netflix, qui est sur ma liste aussi, des trucs à voir. Voilà.
Putain, maté BoJack Horseman.
Ah là, la fin là, pouf, c'est dur.
Ouais, mais c'est tellement
bien.
Ah non, mais la fin, elle est dure, quoi.
Alors, j'ai pas encore fini, moi j'en suis à la 4e saison, je crois, mais c'est de la bombe, enfin, c'est juste tellement bien écrit, quoi.
C'est une des seules séries au monde qui s'améliore au fil des saisons.
J'ai toujours eu du mal à m'y mettre, pour le coup. mais vous me donnez pas envie parce que moi j'aime que les films nuls. Donc
Ah, bah en fait, y a la première saison est bof bof, et puis après ça monte crescendo.
Après, je m'arrêterai là. D'accord.
Ça monte crescendo, et après il faut les déguster comme des bonbons, quoi, des petits bonbons.
Ah, Alex quoi. N'est pas d'accord, mais là il est en train de bouffer des lentilles. Pas envie d'intervenir.
Non, mais je suis pas d'accord non plus, mais.
Il que la saison, hein.
Mais on va pas faire le débat ce soir, il est trop tard. Sinon, j'ai enfermé ma copine dans la pièce d'à côté, je vais me faire taper.
Bah, dis-lui que t'en as encore pour une bonne heure.
Oh, à peu près.
À peu près.
C'est le temps qu'il me faut pour enregistrer le rôle de fer. Le... Bien, c'était. Certains l'aiment au chaud, numéro 1, cette semaine sur Netflix. La semaine prochaine, on va changer de plateforme, on va voler vers d'autres cieux, on va chevaucher en Amazon peut-être.
Moi je dis que la semaine prochaine, on va aller enregistrer dans des coins un petit peu perdus, on va faire découvrir la France. Par exemple, on va faire Certains l'aiment à Sochaux, tu vois.
Là, je vais vraiment cligner la porte.
Marouane a rigolé, c'est bon, c'est validé.
La semaine prochaine, une nouvelle plateforme avec de nouveaux invités. D'ailleurs, j'en profite pour saluer nos invités. Merci Julien.
Ben, merci pour l'invitation.
Merci vous. Merci Zou.
Eh ben, c'était bien cool. On reviendra.
C'est le moment de la minute promo. Allez-y, quels sont vos podcasts? C'est le moment de tout dérouler.
Vas-y Zou, commence.
Eh bien, Dr. Watt et Vite un truc à mater sur Netflix et Schluss sont des podcasts que je fais dans le label Podcast. Il y en a un qui parle de Doctor Who, un qui parle de Reco Netflix, et un qui a une fiction audio dans lequel on vit dans un monde où l'alcool a disparu.
Quelle horreur.
Eh oui, c'est pire que notre monde.
Oh, quelle horreur, mais quelle horreur.
Et moi, on me retrouve donc dans G7, dans Sky is the Limit, qui est un podcast sur le whisky, dans L'École des Facs, qui est un podcast sur les nouvelles techno, dans Le Roi Steven, sur Stephen King, et dans Vite, un truc à mater sur Netflix qu'on a changé parce que ce nom était beaucoup trop long, et qui s'appellera maintenant Watchlist. Ce sera plus simple.
Puis comme ça, vous ne serez pas cantonné à Netflix non plus.
Exactement.
Oh, c'est beau.
La diversification, c'est beau.
On a pivoté.
Ouais, ça sent les mecs qui vont passer aux grandes oreilles d'ici 15 jours, ça. Merci, chers invités. Donc ça, on l'a dit. Merci, Marwan.
Merci à toi, on t'aime.
Merci, Alex.
Des bisous.
Merci, Thierry.
Et merci, cher acolyte.
Merci, Ira et Yassa, qui n'ont pas pu être là, mais qu'on embrasse, hein, et qui seront là, on espère, la prochaine fois. Et merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Prenez soin de vous, lavez-vous bien les mains, restez bien confinés, hein, soyez sages, regardez des films, écoutez des podcasts, au lieu de sortir dans la rue, vous roulez des galoches avec des pestiférés, voilà. On se retrouve, nous, la semaine prochaine, si tout va bien, si le pays n'a pas sombré dans le chaos, pour de nouvelles émissions, de nouveaux films. En attendant, on peut se retrouver sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, @claacpodcast, C-L-A-A-C podcast, et sur toutes les bonnes applications de podcast. On va pas s'amuser à les citer, il y en a beaucoup trop. À la semaine prochaine. Bisous, bisous, bisous.
Ciao.
Bisous.
Bisous.
Alors si jamais vous voulez faire une pause pipi, on peut le faire aussi, comme c'est enregistré, vous me le dites. Non, c'est bon.
C'est bon, enchaînons.
Tout va bien.
Du coup, tu fais comment? Tu fais pipi. Et c'était pas mes mains qu'on claquait.
Oh là là. C'est bon, je me casse.
Reviens, Marwan, c'est bon, c'est fini.